Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes ensemble une heure sur Radio Gemozo pour l'émission La Parole est à vous avec un magazine santé.
Oui, bonjour Michel. Bonjour.
Avec Jean, bien sûr. Docteur Jean Tisserand, voilà, qui va nous parler aujourd'hui de la grippe.
De la grippe, oui.
Ah oui.
C'est un sujet, voilà. Un sujet qui nous paraît relativement banal.
Qui nous préoccupe à l'heure actuelle, oui, puisqu'il y a eu quand même, c'était l'hiver dernier, beaucoup d'essais de la grippe.
17 000 morts l'année dernière.
Ce qui est énorme.
Hein. Oui, c'est énorme.
Donc, on pensait que, bon...
La grippe donne des épidémies saisonnières tous les ans. Hein, c'est pas nouveau. Novembre, décembre, janvier.
Il y avait eu un moment avec le NE.
Alors,
c'est
un virus influenzé et le virus souche, c'est à peu près le même virus depuis la grande pandémie de 1918. C'est un virus qui évolue, qui change un petit peu, mais c'est un virus H1N1 qui maintenant est devenu un virus H3N2. Enfin, c'est des modifications, des mutations du virus. Voilà.
Il mute.
Oui, c'est un virus à ARN, donc c'est des virus qui mutent rapidement. Le mot H dans le virus, ça veut dire hémagglutinine, c'est-à-dire que le virus a à la surface des petits spicules, des petites pointes, qui agglutinent le sang, voilà, les globules rouges. Et neuraminidase, c'est le N, c'est une enzyme, voilà, ce qui permet au virus de se développer, de se multiplier, de pénétrer dans les cellules et d'en ressortir surtout. Voilà. Parce que le mode d'action d'un virus, c'est de pénétrer dans une cellule, hein, et de la faire travailler pour elle. Hein. Voilà, c'est-à-dire que le virus rentre dans la cellule et il force la cellule à fabriquer des virus. Voilà. Et les virus sortent, hein, sous forme de vagues, hein, et puis ils contaminent d'autres cellules. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à
c'est
ce que...
C'est quoi toutes les cellules?
Alors, surtout les cellules...
Par ce virus?
Surtout les cellules du tractus respiratoire. Surtout les cellules pulmonaires, quoi. Mais également les cellules ailleurs, si tu veux, au niveau du corps. Mais enfin, le principal effet, c'est quand même une atteinte des cellules respiratoires avec des difficultés respiratoires. Voilà. Voilà comment ça marche. Et donc...
Ça peut s'aggraver?
Oui, il peut y avoir des grippes graves. Voilà, c'est ce qui fait le pronostic.
La mortalité que tu décrivais plus
tôt. Parce que la grippe évolue suivant deux modes. Il y a un mode épidémique saisonnier tous les ans. Hein, ça dure 10 à 12 semaines. Hein, c'est pas nouveau. Tous les ans, au mois de novembre, décembre, jusque janvier, on a la grippe. Hein. Et puis des grandes pandémies. Alors, la différence des grandes pandémies, c'est que ça touche beaucoup plus, c'est une mutation importante du virus qui fait que les gens ne se défendent pas. Hein. Et on a 15 à 30% de la population mondiale qui fait alors la grippe, et on a des, comme en 1918, entre 50 et 100 millions de morts sur la planète. Hein. Alors que les grippes saisonnières font beaucoup moins de...
Le titre, parce que en réalité, elle venait avec des soldats américains.
Oui, alors il y a toujours des histoires qui traînent sur l'évolution de l'origine. Parce que l'origine, c'est il faut un petit peu expatrier le mal. Alors on parle de grippe espagnole, de grippe de Hong Kong, de grippe américaine, de grippe chinoise. En fait, beaucoup de ces virus viennent quand même de l'Asie du Sud-Est, hein, et sont liés à des migrations d'oiseaux, parce que ce sont souvent les canards et les oies migratrices qui sont porteurs du sein de la bactérie, enfin du virus, dans leur cloaque. Dans leur intestin terminal, hein, et qui contaminent ensuite les oiseaux domestiques, les canards domestiques, les oiseaux domestiques, les poules, etc., et les porcs. Et le danger, surtout avec le porc, c'est que le porc est un... C'est-à-dire que les virus aviaires ne contaminent que très difficilement l'homme. Mais quand le virus est passé chez le porc est un animal intermédiaire qui peut rendre le virus accessible à l'homme. Voilà. En gros. Ça, c'est un petit peu pour le virus, on en reparlera. Hein. Donc, parler des symptômes. Comment reconnaît la grippe?
Oui, comment? Comment qu'on peut savoir qu'on a la grippe, en fait?
Alors, la grippe, c'est quand même une maladie virale qui te cloue au lit. Voilà. C'est une fièvre très élevée, 39,5, 40 degrés, hein, pendant presque une semaine. Alors, je dirais 3 jours, entre 39 et 40. Souvent, le quatrième jour, une rémission, 37, 38, on croit que c'est guéri. Et puis, il y a une deuxième vague d'infestation des cellules par le virus qui recommence et qui donne encore 2 à 3 jours de fièvre. Et puis ensuite, la température redescend et la guérison survient, quoi. Alors, la contagion...
Ça dure combien de temps, finalement?
Alors, la contagion, une semaine. Une semaine. Il faut compter une semaine. Avec une espèce de répit au milieu, ce qu'on appelle le V grippal. Au milieu, il y a un jour où ça va un peu mieux. Hein, et puis les virus qui sont sortis des cellules réinfectent des cellules qui n'avaient pas été infectées à la première infestation. Et ça recommence, mais moins fort, un petit peu moins fort. Parce que pendant ce temps-là, l'organisme fabrique des anticorps pour se défendre. Alors l'incubation, elle est très courte, 3 jours. 3 jours de... si tu rencontres quelqu'un qui a la grippe qui te contamine, 3 jours après, tu es infecté. Et tu es contagieux dès 24 heures avant les premiers signes. Voilà. Alors, ce qui fait que la grippe est très contagieuse, c'est que la durée d'incubation est très courte. C'est-à-dire que chaque personne contaminée va contaminer 7, 8, 10 personnes. Hein, c'est comme une chaîne qui s'élargit de plus en plus et très rapide. Voilà. Comment on se contamine? On se contamine par la respiration. Hein? Quand on expire de la vapeur d'eau. Quand il fait froid, ça se voit d'ailleurs, ça fait un petit nuage comme de la fumée, hein? C'est de la vapeur d'eau. Et sur ces gouttelettes de vapeur d'eau, il y a des virus. Donc si tu parles à quelqu'un qui aspire ces gouttelettes d'eau, parce qu'on vit dans la même pièce ou qu'on parle ensemble, tu te contamines par voie orale, nasale ou oculaire. C'est les points d'entrée du virus.
C'est beaucoup plus agressif qu'un simple rhume de cerveau.
Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, oui. Et donc, la grippe plus agressive, la grippe annuelle fait à peu près 10 000 morts tous les ans. Je te rappelle quand même qu'il y a un peu moins de 4 000 morts sur la route les ans. 10 000, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus. Et l'année dernière, il y a eu 17 000 morts, ce qui est quand même assez considérable. Alors, la grippe touche préférentiellement... les jeunes de moins de 15 ans. Parce que les vieux comme nous, on a déjà rencontré plusieurs types de virus, même si ce n'est pas le dernier virus à la mode, on a quand même des anticorps et on se défend un petit peu mieux.
Hein. Alors pourquoi qu'on préconise pour les personnes âgées alors vaccin contre la grippe?
Parce que 95% des décès, c'est quand même des gens de plus de 65 ans.
Ah oui, d'accord.
Donc, s'il y a eu 17 000 morts, il faut compter qu'il y a eu, je dirais pas vraiment 15 000 morts ou 16 000 morts qui sont chez des personnes de plus de 65 ans.
Ah oui, quand même. Oui,
parce qu'on a quand même... On fait, à cet âge-là, on fait peut-être moins souvent la grippe, mais quand on la fait de manière beaucoup plus grave. À cause de complications respiratoires. Hein. Donc la grippe, c'est une fièvre élevée, c'est des frissons, on tremble, une fatigue majeure, des courbatures, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, on est cloué au lit, hein. Des maux de tête, des céphalées, une toux sèche et douloureuse et un mal de gorge. Voilà les principaux symptômes. Et puis, quelquefois des problèmes de diarrhée, souvent des insomnies, hein, et puis le nez qui coule un petit peu, mais c'est pas... Et puis des éternuements. Donc ça dure 1 à 2 semaines, hein, comme on a dit, hein. Une semaine, je veux dire. On est contagieux pendant 7 jours, pendant tout le temps où on est malade, et chez quelques personnes peuvent garder le virus encore une semaine après. Ils peuvent être contagieux une semaine alors qu'ils sont guéris. Voilà. Il n'y a pas de traitement, c'est un virus. Pas d'antibiotiques, sauf s'il y a des surinfections bactériennes pulmonaires. Il faut prendre du paracétamol.
Tomber à fièvre.
Ouais, de l'ibuprofène ou de l'aspirine. Pas de paracétamol sur des malades du foie.
Hein, parce que le paracétamol, bien sûr. Ils peuvent dépasser les doses.
Alors, oui. Je rappelle ici...
4 grammes par jour.
Oui, 3 grammes par jour, c'est déjà beaucoup. Que la première cause de greffe de foie en France, c'est le paracétamol.
Ah oui,
oui, voilà, c'est important. C'est partout. C'est médicamenteux. On ne prend du paracétamol que si on a mal, que si on a de la fièvre. Il y a des gens qui en prennent un peu tout le temps, comme ça, pour une espèce d'addiction. Ils se sentent mieux ou c'est psychologique. Ben, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Hein. C'est un médicament efficace sur la douleur et la fièvre, mais on ne le prend qu'en cas de.
Et l'aspirine.
L'aspirine, on peut en prendre de manière épisodique aussi, il ne faut pas en prendre tout le temps, parce que à forte dose surtout, parce que l'aspirine empêche les plaquettes de coaguler le sang et peut faire des hémorragies.
Voilà. Ah oui.
Et c'est utilisé comme médicament à très faible dose, à 100 mg par jour. Hein, je dirais qu'un comprimé d'aspirine, c'est 500 mg, mais il y a des tout petits comprimés à 100 mg qui permettent d'éviter de faire des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux de type thrombose, hein, des caillots. Quoi, voilà, hein. Ça empêche les caillots à toute petite dose. Mais cette petite dose n'est pas suffisante dans une grippe. Hein. Il faut prendre des comprimés, je ne sais pas, 3 comprimés à 500 mg par jour, par exemple. Hein, voilà. Mais guère plus, hein, faut pas. Et puis dès que la fièvre s'arrête, il faut arrêter. Hein. Ce n'est pas des traitements de fond à prendre tout le temps. Alors, la grippe peut donner, il peut y avoir des signes de gravité qui sont les difficultés respiratoires, parce que la grippe touche surtout les cellules bronchiques et les cellules, les pneumocytes, les cellules des alvéoles pulmonaires. En détruisant ces cellules, elle diminue les échanges gazeux et donc l'absorption de l'oxygène qui nous est indispensable à vivre. Alors, les signes de gravité, c'est du mal à parler sans faire des pauses. Hein, on est essoufflé, on a du mal de parler. C'est des douleurs thoraciques, dans le bas du dos, une somnolence, difficulté à se réveiller, des gens qui dorment tout le temps ou qui respirent mal, qui sont essoufflés, qui ne peuvent plus parler. Une cyanose, une peau qui devient bleue, violacée, sur les lèvres, ça se voit. Hein. Quelquefois des vomissements, quelquefois cracher du sang. C'est ce qu'on appelle une hémoptysie, des crachats sanglants.
Et des palpitations. Chez les personnes, c'est les mêmes symptômes.
Alors ça, c'est les signes de grippe grave,
oui,
qui doivent faire consulter un médecin d'urgence, voire être hospitalisé. Des signes de déshydratation, de palpitations cardiaques et une température qui monte à 40,5, 41. Et là, il faut consulter, parce qu'il y a des risques de décès. Et il y a un examen qui permet tout de suite de voir...
Même chez les personnes jeunes,
Ça arrive, oui. Moins souvent que chez les personnes âgées, mais chez les personnes jeunes, ça existe. Surtout chez la femme enceinte. Hein, chez la femme enceinte. Bon, j'étais gynécologue obstétricien, je suis retraité. J'ai connu une patiente qui avait une grippe grave, qui arrivait avec des difficultés respiratoires moyennes, mais quand on a mesuré l'oxygène dans son sang, il y avait 70% de saturation d'oxygène dans son sang, alors que la normale, c'est supérieur à 95%. Et cette patiente serait décédée d'insuffisance respiratoire, de manque d'oxygène. Elle était transférée dans un CHU, et ils l'ont mis sous circulation extracorporelle pour oxygéner son sang sur une machine à l'extérieur de la patiente, de ses poumons, pour laisser ses poumons guérir le temps qu'elle guérisse sa grippe pour qu'elle soit oxygénée normalement, parce que sinon elle serait décédée et son bébé serait décédé surtout. Au bout d'une semaine, on a pu débrancher la machine, ses poumons étaient réparés et elle a respiré spontanément. Et elle a été sauvée comme ça. Une femme jeune pour une grossesse dont je me souviens très bien. Quoi. C'est...
On y reviendra après une pause musicale.
Cerclé de portefeuille, stomach à l'élivide, gonflé par l'illusion, parfois dragué par l'âme, vidé par l'insondable, guidé par la victoire. Elle avance aujourd'hui, en plein air sans complexe, chez les petits affranchis, de la voix et du geste. Y'a pas de transparence dans la géflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Dans sa fonction assise, comme une courtisane, elle parle du futur dans les fumées à vin, des cercles réfléchis par des miroirs obscurs. Tout le monde s'épile, blanchit et se rassure. Et s'il te reste encore une portion d'azur, une idée libertaire, une folle passion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Positive et inquiète, pour souffler pourri, corruption ordinaire de la démocratie. Y a pas de transparence dans la géflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption.
Bon, on continue, Michel, sur la grippe, toujours. Donc, c'est une maladie saisonnière ou des grandes pandémies. Hein. Qu'est-ce qu'il fallait faire quand on avait la grippe?
Eh oui.
Bon, alors... c'est très simple. Hein. Il faut rester au lit.
Parce qu'il y avait un vieil adage vosgien qui dit, de toute façon, une crevette pas saisonnière, ça dure une semaine, et une crève saisonnière, ça dure 7 jours. C'est vrai ou pas?
Ben, il faut rester au repos, il faut rester au lit, il faut attendre que ça se passe.
Voilà.
Simplement. Surveiller sa température.
Vitamine C.
Un petit peu, c'est possible. Oh. C'est possible.
Et de résister un peu.
Oui, oui. Repos, dormir suffisamment, rester au chaud, boire beaucoup pour éviter de se déshydrater, et puis surveiller qu'on respire à peu près bien, qu'on n'a pas de difficultés respiratoires, parce que là, on tombe dans les grippes graves. Voilà. Prendre du paracétamol.
Le froid, c'est un agent...
Qui favorise les virus.
Ah oui.
Alors pourquoi? Parce que les virus se reproduisent plus facilement quand il fait froid. Et pourquoi on fait de la fièvre dans la grippe? Ça, c'est intéressant. C'est parce que le virus ne se reproduit plus au-delà de 39 degrés. Quand la fièvre monte, c'est pour se défendre, pour empêcher le virus de se reproduire. Mais on a un problème, c'est-à-dire les virus de grippe aviaire, chez les oiseaux, chez le canard, eh ben, ils restent au chaud à 42 degrés dans le cloaque du canard ou des oies. Et quand ils passent à l'homme, on pourrait très bien avoir des grippes qui continuent de se reproduire, de se multiplier, les virus, à des températures plus élevées. Ça n'est pas encore arrivé, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. C'est lié à un gène que possède le virus et que ce serait très embêtant si le virus aviaire transmettait ce gène au virus humain. Voilà. Parce qu'il y a des virus, j'en ai pas parlé, il y a des virus A qui sont des virus aviaires et qui se transmettent à l'homme, des virus B qui sont uniquement humains. Voilà. Et quand on fait la grippe, c'est quand même très souvent des grippes A. C'est des virus aviaires qui sont des descendants plus ou moins lointains du virus de la fameuse grippe espagnole qui a eu en 1918, voilà, qui a fait sur la planète entre 50 et 100 millions de morts. Hein, c'est... la propagation, donc on l'attrape, on l'a dit tout à l'heure, par voie respiratoire, par les gouttelettes de vapeur d'eau, ou par contact avec les mains. Je te serre la main, je te passe mes virus.
Ou d'où par... la nécessité de se laver les mains.
De se laver les mains bien au savon. Bien au savon, voilà.
Ah oui.
Et on peut l'attraper sur des clenches de porte, sur des tables, sur des surfaces inertes. Voilà.
Il faut on a un peu le même scénario que...
Un clavier d'ordinateur.
Que le Covid, finalement. Ouais.
Alors, pour prévenir, on prend des mouchoirs à usage unique et qu'on jette tout de suite... Hein, qu'on ne laisse pas traîner pour contaminer les copains. On reste à domicile, on ne va pas à l'école, on ne va pas au boulot avec la grippe pour contaminer tout le bureau ou toute la classe. Hein. Et puis, ce n'est pas interdit de mettre des masques. Hein, maintenant depuis le Covid, on s'est un petit peu habitué aux masques. Et c'est pas mal de mettre des masques pour éviter de contaminer. Et puis, on ne va pas voir la grand-mère. On ne va pas voir les personnes âgées, on ne va pas visiter la grand-mère qui est à l'EHPAD au risque de contaminer toute une collectivité de personnes âgées. Et dans les EHPAD, ils ont des dispositifs, au lieu de les réunir dans des salles communes pour discuter, avoir des activités, pendant une épidémie de grippe, on laisse un petit peu les gens dans leur chambre pour éviter qu'ils se contaminent tous. Parce qu'il y a un risque important de mortalité chez des gens de 90 ans, 95 ans. Donc il faut protéger ces gens-là et mettre des masques, ne pas les réunir. Et peut-être
sur soi. Il n'y a pas vraiment de remède.
Non, non, non. C'est un virus.
À part la vaccination. Alors, à la vaccination.
Si, oui. Il y a un remède quand même. Il y a un médicament antiviral qui est à respecter. Il faut respecter le fait qu'on ne le distribue qu'aux personnes fragiles. Et c'est le Tamiflu. Voilà, c'est...
Ça marche.
Ça marche, ça marche. Pas 100%, mais ça permet de prévenir beaucoup de... Alors, chez des gens très âgés, très fragiles, qui ont des déficits immunitaires et qui ont des choses comme ça, c'est une bonne indication. Voilà. Le vaccin, il n'est pas actif à 100%. Il protège à 70% à peu près. Hein. Il est efficace... à partir d'une dizaine de jours après l'administration du vaccin. C'est un vaccin avec des particules virales mortes. Voilà. Alors, il y a un système de réseau sentinelle mondial qui dépiste partout dans le monde les virus de la grippe qui sont en cours d'évolution, en particulier dans l'hémisphère sud, parce qu'ils ont la grippe 6 mois avant nous, hein, puisqu'ils ont les saisons inversées.
Ah oui, inversées.
Et qui nous transmettent les virus... Ils échangent des virus. Nos laboratoires français, européens, d'Amérique du Nord, etc., cultivent les virus sur des œufs. Hein? Voilà, c'était une culture sur œufs. C'est-à-dire qu'on...
Des œufs de poule?
De poule, oui.
Ah oui?
On enlève un tout petit morceau de coquille d'œuf et on insémine des virus dans l'œuf. Et le virus se développe dans l'œuf. Et ensuite, on détruit le virus, on le tue par la chaleur ou par d'autres méthodes. Et donc, ce qui fait qu'on fait un vaccin avec des particules virales mortes. On ne peut pas attraper la grippe avec le vaccin. Ça, c'est quelque chose de sûr. Hein. Et on fait, avec ces particules, on te les injecte. Et toi, tu fais des anticorps contre ces particules virales. Et donc, quand le virus, le vrai virus vivant arrivera, tu auras des anticorps tout prêts pour détruire le virus. Voilà, c'est tout simple. Hein, c'est... Alors, qui doit être vacciné ? D'abord, les gens de plus de 65 ans, on a vu. Hein, c'était important de vacciner les personnes âgées.
J'en suis.
Moi aussi un petit peu. Les 18-64 ans qui ont des pathologies, des déficits immunitaires, des maladies... pulmonaires, les femmes enceintes.
Ah oui ?
Les femmes enceintes, il faut les vacciner parce que les femmes enceintes font des grippes graves. Voilà. J'en ai parlé tout à l'heure.
C'est pas contre-indiqué.
Non, c'est absolument même recommandé. Ah voilà, bon. Oui. Les personnels soignants, parce que c'est quand même embêtant qu'une infirmière hospitalière contamine un service de 30 malades qui sont déjà peut-être pas en bonne santé parce qu'ils ont été en chirurgie opérés ou parce qu'ils ont des cancers ou parce qu'ils ont des...
fragilisés.
Voilà, qui sont fragilisés. Et que si une infirmière transmet la grippe à 30 malades comme ça, ben, il y aura des décès. Donc je pense que c'est pas obligatoire, mais je crois que c'est moralement et éthiquement responsable de le faire. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Les conjoints de personnes malades, hein, si ton épouse a un cancer et qu'elle est sous chimiothérapie, je pense que c'est bien de se vacciner pour l'empêcher de lui passer la grippe, quoi, parce que c'est un risque. Elle pourrait bien décéder.
On est plus fragile, c'est pas.
Oui,
en suine.
Les plus fragiles, voilà. Les personnes âgées ou les personnes les plus fragiles. Alors, les ouvriers qui travaillent dans l'industrie, enfin, l'agriculture avicole, parce que ceux-là peuvent se contaminer auprès de poulets, de canards, etc. Et ils sont beaucoup plus à risque. Et puis des gens comme des fragiles.
Mais les volailles comme ça, ils restent tout le temps porteurs ?
Il y a des porteurs sains. Et puis, il y a des porteurs qui ne sont pas sains, qui sont malades. Alors, c'est pour ça qu'il y a des épidémies de grippe aviaire chez les canards et qu'on tue des milliers de canards dans le sud-ouest parce qu'ils meurent, quoi. Enfin, de toute façon, ils meurent, voilà.
Les pauvres canards.
Ah, oui, les pauvres canards, oui, oui. Ouais. Mais il faut... La grippe, on se vaccine pour se protéger, mais pour protéger son environnement, pour protéger sa famille, pour protéger sa classe, ses amis, ses copains, les gens qu'on rencontre au travail tous les jours. Donc, il y a un côté, je dirais pas individualiste de protection de la vaccination, mais un côté protection de la société, quoi, en fait. Hein, parce que ça m'embêterait de faire une grippe banale chez moi et puis de contaminer des copains qui vont mourir de la grippe. Voilà, ça m'embêterait, quoi. Donc, je me vaccine aussi pour protéger mon entourage. Ils sont plus fragiles, les sans-domicile fixe, les toxicomanes, les immigrants qui vivent en hôtel, etc. Et puis les voyageurs. Ceux qui vont dans l'Amérique du Sud, en plein été, ils peuvent se contaminer par la grippe dans l'hémisphère sud.
Ceux qui sont originaires des pays plus chauds, ils sont plus vulnérables, alors ?
Pas vulnérables.
Par rapport au climat ?
Non, pas spécialement, mais comme ils ont le climat inversé quand c'est dans l'hémisphère sud...
Ah oui, ah oui. Quoique, n'est pas beaucoup ici...
Oui, mais... quand c'est le plein été ici, nous, on risque pas beaucoup pour la grippe, mais quand on est au mois de juin chez nous...
Si, l'Afrique du Sud...
Oui, voilà. En Afrique du Sud, ils ont le climat quand nous, on a un petit peu en hiver, quoi. Alors, les pathologies sont surtout malades, on a dit, c'était les enfants qui n'ont jamais été vaccinés, qui n'ont jamais fait la grippe. Alors, sont sensibles les maladies chroniques respiratoires, l'asthme, les emphysèmes bronchiques, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, c'est-à-dire les gens qui sont des fumeurs, qui ont déjà des poumons très fragiles, les cardiopathies congénitales, les malformations cardiaques, ça existe, et ces gens-là sont plus fragiles. Maladies rénales chroniques, maladies hépatiques chroniques, et puis des maladies neurologiques comme des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, les scléroses en plaques, les démences, les maladies de Parkinson.
C'est-à-dire que moi-même, je suis fragile. Ayant subi un AVC,
Je crois, oui.
Je suis fragile.
Je crois que tu fais partie des personnes plus fragiles. Ouais.
Je vais parler des catégories fragiles.
Fragiles. Les gens qui ont des diabètes, les gens qui ont des déficits immunitaires, hein, chimiothérapie, radiothérapie, des cancers, des traitements immunodépresseurs chez les gens greffés, par exemple. On diminue leur immunité pour qu'ils supportent leur greffe. Ces gens-là se défendent moins contre les virus et il faut absolument les vacciner. Voilà. Le vaccin est tout à fait bien supporté. Hein. Je rappelle que c'est que des particules virales mortes. Hein, c'est complètement inerte, hein, vous n'aurez jamais la grippe. Vous pouvez avoir quelques courbatures.
Et c'est efficace quand même.
Efficace à 70%. pas tout à fait 100%. Il peut y avoir une sensibilité, une rougeur, une petite douleur dans l'épaule, parce que c'est une piqûre qu'on fait dans le muscle de l'épaule.
C'est une excision intermusculaire.
Oui, alors. Oui, mais c'est tout petit, hein, c'est 1 millilitre à peu près, 1 millilitre et demi. Hein. Il peut y avoir une petite fièvre à 38, une petite rougeur, quelques maux de tête, une petite réaction de fatigue de 24 heures, pas guère plus. Hein, voilà.
On est immunisé pour la.
Alors pour la
saison.
Pour la saison, pour le virus en question, parce que l'année prochaine, ce ne sera pas le même virus. Hein. Alors le virus de la grippe profite. Alors. On en parlera peut-être un peu si on a le temps. Il y a eu des grandes pandémies grippales depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. J'ai tout un... plein de données sur le sujet.
On est attaché au virus-là
au Moyen-Âge, au 18e, 19e siècle, etc., ces épidémies étaient beaucoup plus localisées. Pourquoi ? Parce que les hommes se déplaçaient beaucoup moins. Un jour, quelqu'un qui a fait la grippe en Asie, le lendemain, il est parti à New York en avion, il contamine beaucoup de personnes qui, elles-mêmes, retournent en Europe, vont en Amérique du Sud ou en Afrique. Donc, les nouvelles pandémies grippales se propagent à la vitesse de la lumière. Quoi. C'est extrêmement rapide. Voilà. Hein, c'est...
Voilà. Alors...
Donc, le virus suit les moyens de transport humains. Lou, tu nous fais une petite musique.
Voilà, c'est prêt.
Yeah.
Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne avec, avec le docteur Jean Tisserand.
Oui, donc pour la grippe.
Notre ami Jean qui nous a expliqué ce qui était vrai, la
grippe.
La grippe, comment elle se propage, mais aussi comment ça peut...
Prémunir. Comment faire la prévention. Oui, des mesures d'hygiène et la vaccination. Hein.
Voilà.
Et donc la grippe...
Et là, tu vas nous redater un petit peu l'histoire de la grippe.
Oui, un petit peu.
À travers les âges, si on peut dire.
Alors, la grippe est une maladie qui existe depuis toujours. Déjà dans l'Antiquité...
Il y avait déjà des canards à l'époque.
Il y avait plein de canards et on avait des épidémies de canards et d'oies qui mouraient. Ou d'oiseaux même, les corneilles, etc. C'est bien décrit...
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
C'est bien décrit dès l'Antiquité grecque. Ces espèces d'épidémies foudroyantes avec des milliers de cadavres d'oiseaux ou qui arrivaient sur les côtes. Des milliers de canards morts qui arrivaient avec la marée sur les plages des Landes, par exemple. On a connu ça au Moyen-Âge. Hein. C'est bien décrit. Avec c'est pas très rigolo, mais des odeurs pestilentielles de cadavres d'oiseaux par dizaines de milliers. Et c'était certainement la grippe. Et ces oiseaux contaminaient les porcs, les vaches et puis quelquefois les humains. Mais les grandes pandémies n'allaient pas très loin parce que justement les gens ne se déplaçaient pas beaucoup ou très lentement. Hein, très lentement, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de propagation. Notre mode de vie a entraîné des propagations foudroyantes. Beaucoup plus importante.
S'il y avait des accointances ou du moins des soupçons par rapport à la peste aussi, alors
pas trop, non. Parce que les oiseaux sont pas sensibles à la peste. Voilà.
Ah bon, d'accord. Voilà.
Alors, en 1720, il y a eu dans les Vosges, à Dombreau-sur-Vair, dans les Vosges, c'est décrit, une épidémie de...
La région de Vittel.
Oui. Des oies qui sont mortes, beaucoup d'oies qui sont mortes, en quantité énorme.
C'est au moins il y a...
Oui, 1720.
C'est relaté dans les chroniques.
18e siècle, dans les chroniques du 18e siècle. Et ça a transmis, la grippe s'est transmise aux vaches, aux bovidés. Donc il y a eu beaucoup de vaches qui sont mortes également. Alors il y a eu un arrêt de police à Dombreau-sur-Vair, donc dans les Vosges, qui défendait à chaque ménage de nourrir plus de 12 oies, outre les oisons, et de les conduire et garder dans les versaines. C'était dans les. C'est un mot de vieux français qui traduit les terres publiques. Dans les friches publiques. Il fallait les garder chez soi, enfermés. On n'avait pas le droit de les balader dans les jardins publics pour ne pas contaminer. Sous peine d'une amende de 5 francs barois. Voilà,
il y avait déjà des soupçons de transmission à l'homme.
On ne connaissait pas le virus, mais on savait que c'était les oies qui transmettaient ce virus. Donc, on vous interdisait d'avoir plus de 12 oies et il fallait les garder chez soi. On n'avait pas le droit de les promener dans les jardins, dans les friches publiques, dans les jachères exactement, pour se nourrir. Il fallait les enfermer. Hein. Ce qui était une mesure de total bon sens, parce qu'on s'est aperçu que c'était l'oie qui transmettait la maladie. C'est assez remarquable quand même. Hein. Et puis en 1774, on a eu 600 oies trouvées mortes sur les bords de la Moselle en Lorraine. 600 oies, des oies migratrices, qui sont mortes comme ça, qu'on a retrouvées. 600 oies, c'est quand même pas rien, quoi.
Ah oui, des trajets de migration des oies.
Des
aussi.
Oies, oui. Donc c'était... pour la médecine, c'est une leçon d'humilité. Parce que c'est une maladie qu'on n'a jamais réussi à vaincre. Elle revient périodiquement. Alors, en témoigne quand même surtout une des plus grandes pandémies dont on ait connaissance, c'est la grippe espagnole.
Eh oui, on l'a évoqué tout à l'heure déjà. Oui.
La grippe espagnole, elle a fait quand même en France 200 000 morts.
Alors que c'était des populations qui étaient...
Des
populations qui étaient vulnérables.
On sortait de la Première Guerre mondiale, c'était 1918. Conflit. Oui, 1918. Et il y a eu 33 000 morts dans l'armée française quand même.
Oui.
Alors que je rappelle, une épidémie annuelle, bah, c'est 10 000 morts, voilà, à peu près. Mais là, on a eu... dans le monde, il y a eu entre 50 et 100 millions de morts. Hein, c'est énorme. C'était 27%.
C'est pire que le Covid, ça.
Ah oui, 27% de la population mondiale a été grippée. C'était une hécatombe avec 2,5 à 5% de décès. Les gens faisaient la grippe, avaient à peu près 3,
et
4,
puis là,
5.
Et puis là, c'était tout ça. Même des jeunes.
Oui, 4, donc à peu près 20%, 20 à 25%, 27% de la population mondiale touchée, et dans les gens touchés, 5% de morts. C'est quand même pas rien. C'est un fléau quand même considérable. Alors, en Europe, on était relativement favorisés. En Inde, par exemple, il y a eu 18,5 millions de morts. 6% de la population est morte. Donc c'est quand même énorme. 2,3 millions de décès en Europe. 0,5% de la population américaine. Et surtout les 20 à 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une épidémie, une grande pandémie grippale en 1889-1890. C'était la grippe russe. Et qui avait fait pas mal de dégâts aussi, mais les gens âgés gardaient le souvenir immunitaire de cette première grippe, et les gens qui sont morts sont des gens souvent de moins de 40 ans.
D'accord.
Donc c'est quand même quelque chose de... Et il y a une corrélation prouvée entre les décès et les cas graves et la pauvreté de la population mondiale. La grippe profite de gens malades, de gens très pauvres. Et le pire, ça a été la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande... Il y a eu 30% des hommes décédés et 22% des femmes. 30% des hommes et 22% des femmes et 10% des enfants. Allez, Lou. Drive our ships to new lands.
Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne avec Jean.
Nous parlions.
Docteur Jean Dixon, et toujours sur.
La grippe.
La grippe, bien sûr.
Nous parlons de la grippe espagnole. Hein?
Et la fameuse grippe espagnole, alors, oui.
Alors le pire.
Les chroniques en son oui. temps.
Le pire, c'était la Nouvelle-Zélande. Hein. 30% de décès chez les hommes, je disais 22% chez les femmes. C'est de la population, hein, de toute la population. C'est considérable, c'est énorme.
C'était l'hémisphère sûr.
Oui, oui. Ouais. Alors, plein de gens jeunes célèbrent sont morts de la grippe en 1918-19.
Oui.
Guillaume Apollinaire.
Ah oui, c'est ce que j'avais retenu.
Oui, Edmond Rostand.
Edmond Rostand
de la grippe, oui. Egon Schiele, qui était un peintre célèbre germanique.
C'est la
oui,
grippe, alors.
La grippe, oui. Frédéric Trump, le grand-père de...
ouais. De qui?
Trump.
Est mort ah bon
de la... Oui. Max Weber, celui qui a fondé la sociologie.
Ah et, bon
beaucoup de gens sont morts, oui, oui. Voilà pour la grippe espagnole. Alors... Après, tout, il y a eu des épidémies de grippe, mais des épidémies annuelles, quelquefois un peu plus importantes.
Oh, je me souviens, quand j'étais gosse, la grippe de Hong Kong.
Alors, il y a eu la grippe asiatique d'abord, en
1906. Oui.
Alors,
oui.
La grippe espagnole, c'est le virus H1N1. Et la grippe asiatique, c'est le virus H2N2. Il a évolué un petit peu, voilà. Mais c'est un descendant du H1N1, voilà.
Hein C'est la même famille, quoi.
Voilà, c'est la même famille. À peu près 2 millions de décès dans le monde. Beaucoup moins que la grippe espagnole. Hein. Entre 50 et 100 millions, la grippe espagnole.
Hein. Ah oui, je me souviens, ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'écoliers qui manquaient l'école.
Et entre-temps, comme dans les années 30, grâce à la découverte du microscope électronique, on a enfin... trouvé l'origine de la grippe dans les années 30 et on a visualisé le virus de la grippe. C'est seulement à ce moment-là.
Le virus.
Oui, on savait que c'était épidémique, on savait que c'était un agent X ou Y qu'on ne connaissait pas. Ben, c'est dans les années 30 qu'on a, par des microscopes électroniques, donc une invention technique, qu'on a pu faire
avant,
la preuve.
Avant, on pouvait déceler un microbe, mais pas le virus. Et trop petit.
Trop petit pour le voir. Oui, on savait que c'était épidémique, mais... Et à partir du moment où on a dépisté le virus, on a pu cultiver le virus sur des œufs et on a pu fabriquer des vaccins. Et surtout, on a mis en place un réseau mondial de surveillance de la grippe qui fait que dès qu'il y a un virus de la grippe qui est dépisté, qu'on peut voir, l'ensemble des laboratoires mondiaux sont au courant, connaissent le virus... les laboratoires partagent le virus, peuvent le cultiver pour faire des virus, des vaccins adaptés à ce nouveau virus. C'est un exemple de coopération médicale qui est très, très chouette, finalement, parce que même en période de guerre ou de guerre froide, sur le plan médical, on continue de s'échanger les virus grippaux pour pouvoir protéger l'humanité. Hein, parce que quand même...
Fabriquer des vaccins.
Oui. En 1918, quand même, il y a eu entre 50 et 100 millions de morts sur une population qui faisait 1,7 milliard d'habitants.
Ah oui.
C'est quand même... la population...
Maintenant qu'on est à 8 milliards...
On n'est pas à l'abri...
S'il y avait...
Oui, on n'est pas à l'abri...
De mesures prophylactiques...
Et ça reviendra.
Ça ferait du monde.
Et ça reviendra, c'est certain. Puisque la grippe évolue depuis l'Antiquité, depuis 520 à peu près avant Jésus-Christ, on a des notions d'épidémie régulières. Hein. Mais actuellement, la population mondiale est beaucoup plus importante, elle voyage beaucoup plus, et puis les élevages avicoles comportent des milliers d'animaux. Donc il y a tout pour refaire une pandémie grippale, et ça reviendra. Et on est à la merci de nouveaux virus, qui est le virus H5N1, le virus de grippe aviaire. Et il y a déjà eu, en novembre 2025, donc il y a très peu de temps, un nouveau virus H5N5 qui a donné un décès aux États-Unis. Voilà. Donc on n'est pas à l'abri de tout nouveau virus H5N1 ou H5N5 qui pourrait très bien passer la barrière d'espèce et passer chez l'homme en passant chez des animaux comme le porc, ou des petits carnassiers, parce que ce sont les oiseaux qui sont malades. Et le chat, par exemple, furets...
Chat peut être malade?
Oui.
Chien?
Les chats, surtout les petits animaux qui consomment des oiseaux. Les petits rongeurs, le furet... et pourquoi? Parce que le chat va boire de l'eau à la surface des flaques d'eau, à la surface des étangs. Il lape la surface. Et les canards ont des déjections avec des virus qui restent dans le film de la surface de l'eau. Donc, le chat peut se contaminer. Voilà. Donc, cette fameuse grippe asiatique, elle est partie de la Chine, hein, du Yunnan, et puis, je crois, de la province du Guizhou. Voilà.
Du Yunnan, déjà, à cette époque-là.
Elle a fait, selon les estimations, entre 70 000 et 120 000 morts aux États-Unis, par exemple. Hein. Et surtout des femmes enceintes et des gens qui avaient des maladies cardiaques. Hein. Et pas trop des gens âgés de plus de 70 ans, parce qu'ils avaient connu, en 57...
En 57, soi-disant espagnol.
Ils avaient connu la grippe espagnole, voilà.
Hein. Ah oui,
oui.
Donc ils avaient
Je dirais que les épidémies...
La mémoire de leur organisme.
Voilà. Et les épidémies annuelles touchent tout le monde, font plus de décès chez les personnes âgées, mais les grandes pandémies touchent souvent des jeunes. Et en 1918, c'est des gens de moins de 40 ans qui sont morts. C'est beaucoup de...
Oui.
Voilà. L'épidémie suivante fut l'épidémie de la grippe de Hong Kong, 1968. Hein. Et là, on est passé... C'est plus H2N2, c'est H3N2. C'est une évolution du virus H1N1. C'est le même virus qui change un petit peu, quoi, voilà. Mais on n'est pas à l'abri de nouvelles épidémies où l'hémagglutinine dit H ou la neuraminidase dite N change complètement. Hein. Ah, H5N5, ouais. Par exemple, ce serait...
C'était le cas l'hiver dernier ?
Oui, oui, oui.
C'était le cas l'hiver dernier, non ?
Non, c'est un virus H3N2 actuellement. H3N2.
Et encore oui, actuellement.
Mais si on passait à H5N1 ou H5N5, on serait quand même très embêté du point de vue immunitaire parce qu'on n'a jamais trop rencontré ces H5, N5 et N5. Voilà. Donc on n'est pas à l'abri de nouvelles pandémies mondiales. Hein. Alors la grippe...
C'est pas rassurant ce que tu dis, parce
ça veut dire
que ce virus, il mute sans arrêt.
Sans arrêt. Ben, c'est pour ça que je vous parle de la grippe, puisqu'il me paraît
d'une
chose tout à fait banale. Je pense qu'il faut se vacciner, parce que plus on se vaccine, plus on a des chances de se protéger quand même.
Oui, et puis de se réguler les autres aussi.
De pas être vierge du point de vue immunité. Hein. Parce que c'est quand même des cousins, ces virus. Si on se vaccine contre les cousins, on fera peut-être la grippe quand même, mais on la fera peut-être de manière beaucoup moins sévère. D'ailleurs, c'était un avantage de la grippe. Elle protège à 70%. Le vaccin, il protège à 70%. Mais si vous faites la grippe, les 30% qui font la grippe ne font pas de grippe sévère. Hein? Et c'est la grippe sévère qui tue. Voilà.
Voilà.
Donc la grippe de Hong Kong, comme son nom l'indique, elle est venue de Hong Kong. Il y a 500 000 personnes qui ont fait la grippe, 15% de la population. Et puis c'est parti comme une traînée de poudre dans le reste de l'humanité. Hein. C'était un virus H3N2. Donc ceux qui avaient rencontré le H2N2, déjà, c'était un cousin, ont été moins malades, quoi. Hein. C'est une pandémie de gravité 2, alors que les épidémies sont... Des pandémies sont classées de 1 à 5. Donc c'était pas une pandémie très, très, très grave, quoi, voilà. Elle avait fait 31 000 décès en 2 mois en France. 31 000 décès en 2 mois, c'est quand même pas mal, hein.
Ah oui,
c'est quand même
à rapporter 3, des
épidémies
plus récentes.
Ces années, c'est 10 000 morts, quoi. Hein. Et l'année dernière, on a déjà eu 17 000 morts. Donc, faut qu'on se méfie un petit peu, quoi. Hein. Alors, pour la petite histoire, le laboratoire Pasteur avait isolé le virus, mais négligé de l'introduire dans le vaccin. Hein, et surtout, il y avait des vaccins en quantité insuffisante. Voilà un petit peu pour le.
Ben voilà.
Alors, il y a eu d'autres pandémies.
Vous pouvez retrouver cette émission hein,
D'autres pandémies
sur le 107.
Plus récentes, mais beaucoup moins graves.
Voilà.
Et nous sommes dans l'épidémie H3N2, dit virus K actuellement.
Voilà.
Je pense.
On a terminé pour aujourd'hui.
Oui, je pense.
Allez.
Vaccinez-vous. Vaccinez-vous. Oui. Hein. Vaccinez-vous. Moi, je crois que c'est important.
Éloignons la grippe.
Ouais. C'est un virus. C'est un vaccin qui n'est pas dangereux. Il faut se vacciner. On se protège et protège.
Voilà.
On protège ses amis, son entourage.
Et voilà.
Je crois que c'est important. Je sais que les vaccins, c'est quelque chose de polémique, mais
moi.
C'est scientifiquement prouvé qu'il n'y a pas d'effet secondaire de ce vaccin et qu'on protège.
Merci Jean.
Merci à toi Michel de m'avoir accueilli.
Et voilà.
Merci à Lou hein, de
et voilà. Merci
d'avoir assuré
à Lou.
La technique. Hein. C'était sympa.
Allez, on se quitte pour aujourd'hui.